Bon, on va se. Oui, j'enregistre. On va se remettre. On va s'imprégner à nouveau des paroles du psaume. Parce qu'on va se mettre vraiment, dans, je pense, dans le cœur de ce qui va être enseigné, puis de la parole de notre Dieu. Donc, je vais le réciter une autre fois. Le psaume 88, à nouveau. Donc. Cantique, psaume de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte, cantique d'Emma et Zrachit. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Pause. Tu as éloigné de moi mes amis et tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé, je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Pause. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs m'anéantissent. Elles m'enveloppent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent tout à la fois. Tu as éloigné de moi mes amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. C'est tout qu'un psaume, c'est tout qu'un texte qui nous affecte en lisant ça. On commence par l'introduction, juste quelques faits qui peuvent être intéressants. On ne connaît pas beaucoup de choses sur Aimant, le gars qui l'a écrit. On sait qu'il était voyant de David. Il est écrit à un endroit. David l'avait établi sur la musique avec ses 14 fils et 3 filles. Il est nommé... dans les chefs de la musique, dans 1 Chronique 25, avec Asaph, Jedutun et Étan, son frère. Étan et Éman, ses deux frères, auteur du psaume 89. Puis j'ai vu à quelque part, c'est possible qu'Étan soit aussi appelé Jedutun, puis dans ce cas-là, il serait aussi l'auteur de 62 psaumes 17. Fait que c'est presque tout ce qu'on sait sur lui. Puis je pense qu'il y a quelque chose de volontaire là-dedans. Donc, on sait rien de ces gars-là. C'est intéressant, par exemple. Hein? Tout, tu sais, psaume de David, psaume d'Aimant, Étan, j'ai du temps, puis c'est tout dans le même temps. Toutes les psaumes qui ont un auteur, je pense que tous les auteurs qui sont dits des psaumes, c'est tous ces 4-5-là. Fait que c'est tout dit de David. Fait qu'il y a des psaumes qu'on ne connaît pas l'auteur, mais en tout cas, c'est fait intéressant. Hein? En lisant tous les psaumes, moi, je me suis affectionné aux psaumes dans les dernières années. Avant, tu sais, on aime la parole de Dieu, puis tout ça, puis je l'aime toujours étudier beaucoup, puis aimer beaucoup la parole de Dieu, évidemment, comme au moins la plupart de vous. Puis, les psaumes, je passais comme pas vraiment outre mesure là-dedans. J'écoutais, j'y lisais de temps en temps, puis je me suis beaucoup mis là-dedans dans les temps difficile que vous connaissez, que j'ai passé dans les dernières années. Puis trouver beaucoup de réconfort là-dedans. Puis j'ai trouvé que c'est ça. Toutes les psaumes ont des choses réconfortantes, sauf lui. Lui, c'est le pire. Il n'y a pas de choses réconfortantes là-dedans. Il n'y a rien d'heureux à y lire là-dedans. Du moins, en lisant ça de même, à face value. C'est... C'est peut-être même un psaume que j'aurais pu peut-être m'accaparer dans les moments les plus tristes. Bon, non, pas qu'il me représentait à 100%, mais tu sais, quand on lit ça, on voit quelqu'un qui était dans une situation qu'on peut se mettre dedans dans nos moments les plus tristes. Fait que c'est le plus triste de tous les psaumes. Puis, c'est ça, un de nos frères me l'avait fait connaître il y a quelques années. Puis, c'est ça, lui-même, je pense pas qu'il comprenait ça. Puis lui-même disait, ah, c'est le psaume le plus triste de la Bible. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais pourquoi est-ce que c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a comme quelque chose d'étrange à un psaume de même qui a rien de bon à dire. Donc, j'ai longtemps médité sur ce psaume-là. Puis je ne le comprenais pas. Puis je l'ai juste compris récemment. C'est ça, toutes les autres ont des choses réconfortantes. Mais c'est ça, en Christ, ça a changé la manière que je vois les psaumes maintenant. Avec notre vie en Christ. Puis ça, puis la manière dont on voit quand c'est cité dans le Nouveau Testament, les psaumes, on découvre quelque chose. C'est ça, je vous invite tout le monde, quand vous lisez le Nouveau Testament, puis les citations, puis allez voir la citation. Des fois, c'est pris de manière étrange. Des fois, dans les psaumes aussi, des fois, il y a des psaumes qui ne sont pas attribués à Christ, comme explicitement écrits dedans. Puis, le psalmiste, l'auteur du Nouveau Testament, le relie à ça. Je pense que toute la parole rend témoignage de Christ. Donc, c'est ça. Quand pasteur, il y a un temps, avait prêché sur les psaumes imprécatoires, puis ça avait changé ma vue de ça. Justement, les psaumes imprécatoires qui disent des choses pas fines sur les méchants, puis qui veut que Dieu juge le méchant. On a quelque chose à apprendre de grand là-dessus. Puis là, il avait prêché là-dessus, là, je vais pas revenir dessus, mais c'est ça. Mais quand même, avec tout ça, j'avais quand même pas compris le but de ce psaume-là. Qu'est-ce qu'il a à nous enseigner? Mais avec Christ, le sujet du psaume, c'est Christ. Puis c'est lui qui donne tout son sens à ce psaume-là. Donc, on peut le relire d'une manière différente maintenant pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça. Je pense que le sujet, vraiment, l'auteur, c'est volontaire, aimant, là. On ne sait pas c'est qui, puis on ne sait pas ce qu'il a traversé. Mais Christ, on sait, en partie, à tout le moins, de ce qui est écrit. Puis, je pense que Aimant était prophète, était voyant de David. Il prophétisait sur Christ. Verset 1. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres pour chanter sur la flûte. Cantique d'Aimant et Zrachit. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit vers toi. On ne pourrait pas penser qu'on pourrait attribuer quelque chose comme le salut à Christ en tant que tel, là, que lui a été sauvé, mais il y a une sorte de salut que Christ a eu à cause de sa justice. Il a été, pour ainsi dire, sauvé de la mort. Puis, je n'ai pas tiré ça de mon opinion, du livre 1, opinion 5-7, admettons. Là. C'est vraiment Hébreux 5-7. C'est dans Hébreux 5-7, c'est lui, parlant de Christ, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est un verset qui fait la controverse, mais moi je crois que il est mort, puis il a été sauvé de la mort à cause de sa justice. Donc il n'était pas possible que la mort le retienne. Dieu l'a ôté de la mort, l'a ressuscité. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc, quand il dit « Dieu de mon salut, je crie jour et nuit vers toi », il y a, comme Hébreux dit, Hébreux 5-7, avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et être exaucé. Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. Jésus est reconnu pour avoir prié, il a prié énormément, des heures, des nuits, mais particulièrement en s'approchant de l'heure où il a été glorifié, puis c'est là où est-ce qu'on a les plus belles prières de toute la parole de Dieu qui nous sont adressées, qui sont adressées à Dieu pour nous, dont on est le sujet. principalement, mais dont lui-même était aussi le sujet. Dans Luc 22, 42, il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, n'est la tienne. » Donc l'heure approchait, puis il était pour subir le châtiment le plus extrême. « Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. » Christ, je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Il était mis au rang de ceux qu'on envoie vers la mort, la crucifixion. Il souffrait les douleurs de la mort. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. Il y a ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Pause. Notez, ta fureur s'apesantit sur moi, je vais y revenir. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu as rendu pour eux un sujet d'horreur. Je suis renfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Je crois que là, dans le séjour des morts, il a été sorti de là. Il invoquait Dieu dans le séjour des morts. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Dans Ésaïe 53, il est écrit, verset 8, « Il a été enlevé par l'angoisse, c'est le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Notez, qui a cru? Il n'y a personne, tu sais. OK, pendant le temps de la crucifixion, tout le monde est parti. Puis d'apôtres, là, ils sont tous partis. Tout le monde l'a abandonné. Même Pierre, évidemment, celle-là qui avait fait des instances particulières, disant qu'il ne l'abandonnerait jamais. Sa famille, ne croyait pas en lui. Puis tu sais, Des fois, c'est autant un abandon de se faire littéralement abandonner par quelqu'un. « OK, je m'en vais, je vais plus te voir, que je crois pas du tout en toi. » Ça va dans une direction que je crois pas du tout en toi. La famille, en tant que chrétien, là, on a des gens qui refusent plus, pas nécessairement de nous voir, mais qui ne croient pas du tout dans ce qu'on fait, puis ils nous suivent pas du tout, du tout, là. Fait qu'il y a un abandon là-dedans, puis Christ l'a certainement vécu. Puis encore dans Ésaïe 53, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Donc, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Je vois ça comme on disait tout à l'heure, « Ta fureur s'apesantit sur moi. » Toute la fureur de Dieu qui s'est présentée sur Christ, et tu m'accordes de tous tes flots. Donc, Christ, il a subi toute cette souffrance-là. Le psaume 22, un psaume qui est très évidemment sur Christ, c'est celui qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Puis détaille, il met tous les détails de la crucifixion des siècles et des siècles en avance. Donc celui-là, c'est très clair qu'il parle de Christ, puis qu'il parle des souffrances, je crois, physiques qu'il a eues. Puis ici, je crois qu'on parle de l'abandon de Christ, comment que les gens l'ont abandonné, puis comment est-ce qu'il a subi l'abandon, puis que c'était voulu. Donc, c'était pas en vain qu'il a subi ça, mais c'était nécessaire. Puis, c'est ça. On va revenir un peu sur le thème de l'abandon dans quelques minutes, mais je crois que c'était nécessaire dans le but du sacrifice. Il était envoyé dans le séjour des morts, comme on a lu, il parlait du séjour des morts, mais il n'a pas été abandonné. Donc, acte 2, il cite le psaume 2, il peut être traduit de différentes manières, mais je crois que l'acte 2 nous le dit bien, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Je crois qu'il a été, il est écrit dans, je pense, 1 Pierre ou quelque chose de même, où il a été prêché aux esprits en prison, quelque chose comme ça. Mais je crois qu'il a été pour, justement, on va dire, pour les saints de l'Ancien Testament. Puis, il n'a pas été abandonné au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Donc, son corps n'a pas vu la corruption. Donc, si on continue dans le verset 13 du psaume. Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme, et pourquoi me caches-tu ta face? On voit vraiment, moi, c'est quand je vois ça, je vois vraiment Christ sur la croix. Pourquoi me caches-tu ta face? Puis les méchants qui disent, s'il l'aime, qu'il le délivre. Il disait ça, puis c'était un autre psaume, involontairement aussi, là, d'ailleurs, qui n'est pas ouvertement attribué à Christ. Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Ésaïe 53 encore. C'est tellement beau voir ça. Des siècles d'avance, Christ. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Donc, c'est Christ, notre homme de douleur. Donc, puis Hébreux 2, si on lit Hébreux 2, et d'ailleurs, oh boy, bon, je viens de perdre ma référence. Si on lit Hébreux 2, le passage nous vient à décrire Christ dans sa souffrance. Puis que sa souffrance était pour nous. Hébreux 2, 10, il dit il a été élevé. Il a élevé les Dieu a élevé par les souffrances le prince de notre salut. Donc, des fois, les souffrances de Christ nous semblent lointaines. Mais ce psaume nous les rapproche. Par la mort, il a anéanti la mort. Par les souffrances, il a anéanti, pour ainsi dire, les souffrances. Donc, un jour, il n'y aura plus de souffrance. D'ailleurs, j'ai le goût d'aller voir. On va aller voir Hébreux 2, faire un petit tour là. Hébreux 2. C'est ça. Bon. Verset 7, il est écrit, tu l'as baissé pour un peu de temps dessous les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, à cause de tout ce qu'il a souffert, il a été couronné de gloire et d'honneur. Verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, comme on a lu, en effet, ceux pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulaient conduire à la gloire. Il nous a conduits à la gloire, beaucoup de fils. Éleva à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Puis notez ici, verset 11-12, là, mais « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. » Ça, c'est dans le psaume 22 que j'ai dit tout à l'heure, celui qui détaille les souffrances de Christ sur la croix. « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants, que Dieu m'a donné. » Donc, puis verset 14, c'est ça. Le texte s'en va naturellement là-dessus. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Donc lui-même, il avait une chair, pour ainsi dire, sa chair. C'est pour ça qu'il dit, qu'il priait à la croix, avant la croix, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc je crois qu'il y avait une chair qui ne voulait pas mourir à la croix, mais c'était la volonté de Dieu, puis c'était aussi sa volonté parce qu'il le dit longtemps d'avance, donc il savait clairement qu'il allait mourir à la croix. Mais il a participé lui-même sans péché, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, verset 17, « En conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Donc, vous voyez ici, là, on a quelqu'un, c'est ça, il a été rendu semblable, verset 17, « en toutes choses à ses frères. » Donc, il a souffert plus que nous en toutes choses. Il a souffert l'abandon plus que nous. Il a souffert la mort pire que nous. Je crois qu'il a souffert toutes choses plus que nous. Il a souffert la faim plus que nous. Là, 40 jours, je pense que c'est littéralement... parce qu'on m'a dit ça, que après 40 jours, normalement, tu meurs. Là, c'est comme... Quand il est écrit « il eut faim », là, c'est comme la dernière fois que ton corps te dit qu'il faut que ça rentre, sinon tu meurs. Là. Je pense qu'il a été tenté en toutes choses. Il y a des choses qu'on voit clairement, okay, la faim, la soif, le désert, Satan qui offre toutes choses. Puis l'abandon du psaume 88. Donc, il a été abandonné par tous, puis c'était voulu. Puis, ça nous rappelle aussi un des types de Christ volontaire, un des types qui est très clair. Les brebis qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 16, 21-22. Donc, 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. C'est Christ. Donc, il s'en va, abandonné par tout le monde dans le désert. C'est d'ailleurs écrit comme Christ a souffert hors du camp, dans Hébreu. Donc, aussi abandonné par tous en dehors de la ville. Comme le bouc ici a été chassé dans le désert, en dehors de la ville. Puis, il m'en reste encore un peu à dire, mais je pense que je trouverais ça approprié si on pouvait interrompre un peu ce message, puis se remémorer ça avec le 142 dans le Louer Dieu. On pourrait chanter juste à cappella de même. Gloire à ton nom. Pour tout ce qu'il a souffert, puis ce qu'il a. Tout ce qui s'est fait abandonner, puis toute son œuvre, puis tout ce qui était pour nous, c'est 142 dans le Louer Dieu, donc celui-là ici, là. C'est drôle, j'ai chanté hier. Salut. Donc, on est tous ouverts là. On va y aller. Je veux te rendre grâce, un jour tu m'as sorti de la fosse éternelle que je creusais moi-même. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Éternel, gloire à ton nom, Seigneur.
Jésus, gloire à ton nom éternel. Je veux te rendre grâce pour ta source de paix. Elle a jailli un jour au profond de mon âme. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves. Elle purifie ma foi et me façonne à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Je veux te rendre grâce. Ton esprit me fait croître comme un grand arbre en fruit au milieu de Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel.
Amen. Amen. Une des grandes vérités aussi qu'on peut s'accaparer là-dedans, c'est qu'on est en lui. En lui, on a tous nos péchés sont pardonnés. En lui, on a toutes les bénédictions, en fait. On ne pourrait pas comme terminer de dire tout ce qu'on a en lui. On va dire en lui, on a tout. Puis, en lui, quand on est mis en lui, on est mis dans sa vie parfaite. Tu sais, on avait peut-être... Peut-être certains s'en souviennent, je ne sais pas, mais on avait découvert un peu, le pasteur avait montré à l'église qu'on avait découvert à GFI aux États-Unis, et tu avais notre ligne qui descend, notre vie normale descend jusqu'en bas, jusqu'à la mort. Ça, c'est notre vie sans Christ. On s'en va, puis on meurt sans Christ. Puis on a la ligne de la vie éternelle en Jésus-Christ, passé, éternel, présent, futur, dans l'éternité. Puis maintenant, on est greffé dans sa vie. Plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, puis on est en lui. Et qu'en lui, on a un nouveau futur. On va aller au ciel. Donc, c'est une méchante grosse bénédiction. Donc, on va être avec lui pour toujours. On a un nouveau présent. Maintenant, on est rendu enfant de Dieu. Puis je pense que même aussi, on peut s'attribuer le passé en Christ. Et qu'en Christ, on a un nouveau passé. Aussi, c'est plus vrai, toutes les choses qu'on était avant. Donc, on n'est plus un tel qui n'est pas bon dans telle affaire. On n'est plus le pas bon d'avant, pas bon, pas bonne. Ou même celui qui était bon avant, dans plein de choses, on n'est plus ce qu'on était avant. On est une nouvelle créature. Je pense que son passé nous est attribué. Maintenant, on est rendu sans péché. Fait que c'est plus notre passé. En Christ, on peut s'accaparer l'œuvre parfaite de Christ pour notre vie, pour toute notre vie. Tous ceux qui ont vécu des abus, puis tout ça aussi, là, pensez à ça, là. Des abus dans l'enfance de plusieurs types, des abus même adultes aussi, tout le passé qui vient vous hanter, là, c'est plus vrai maintenant, c'est plus le passé que vous avez maintenant. Donc, on est, pour ainsi dire, devenu celui qui a été abandonné, comme dans le psaume 88. Vous voyez le thème de ce mois-ci, on a un nouveau passé, présent et futur. Puis je pense que ça se trouve même dans le psaume 88, que c'est nous aussi. Donc, on est comme en lui comme ceux qui ont subi ce psaume-là. Maintenant aussi, on peut s'attribuer ce psaume-là aussi comme dans le présent, dans un certain sens. Parce que lorsque nous sommes abandonnés, parce qu'on est abandonnés en Christ, notre famille, nos amis, tout change. Puis, c'est dans le commun de nous de souffrir l'abandon à cause de Christ, à cause de sa vie. On est rendu semblable à lui. On souffre avec lui, puis lui souffre avec nous. Dans 1 Pierre 4:12, il dit, puis la suite, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris. » Il ne faut jamais être surpris de ça, comme d'une chose étrange qui vous arrive, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc, on a une part qu'on a aux souffrances de Christ, qu'on se réjouit, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, comme le psalmiste, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes abandonné, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les choses d'autrui. Donc, quand on souffre pour lui, pas pour nous-mêmes, on souffre avec lui, puis il souffre avec nous. Puis, donc, ce psaume est notre passé, comme on est en lui. On a souffert en lui, l'abandon. C'est notre présent lorsqu'on est abandonné. Puis, je crois que c'est notre futur aussi, dans un certain sens aussi. Parce que lorsque nous mourrons dans la chair, lorsqu'on passera par la mort, on va être seul puis abandonné, pour ainsi dire. On peut être abandonné, on peut ne pas être seul dans notre lit de mort, mais après, quand on meurt, on passe seul vers la mort. Puis on pourra dire, quant à notre chair, ce que le psaume dit, « Dieu de mon salut, je crie jour et nuit vers toi, que ma prière parvienne dans ta présence. Bon, mon âme est rassasiée de maux, ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mourant de ceux qui descendent dans la fosse, comme un homme qui n'a plus de force, étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués, couchés dans le sépulcre. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Tu as éloigné de moi mes amis, parce que les amis, ils restent sur terre, mais au ciel, on va les revoir, heureusement, mais en Christ. Mais quand on s'en va vers la mort, il faut les voir partir. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Ben, ils vont se lever pour le louer à la résurrection des morts. Mais, c'est ça, on pourra dire à l'Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève vers toi. On pourra dire à cause de Christ, ben, Dieu pourra dire à cause de Christ, il va pouvoir nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Puis on pourra dire aussi comme Christ, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Tout ça à cause de ce qu'on a lu. Lorsque tous nous aurons abandonnés, Christ, il va rester notre seul secours. Puis c'est toute une bénédiction. Là. Il y a un cantique, là, il y a le mérite beaucoup qu'on aille en français. Peut-être que c'est dans les projets, qui sait, là, parce que c'est dans les mêmes auteurs que certains des nouveaux dans notre livre vert qu'on aime beaucoup. Puis il dit, c'est « All I have is Christ ». Ça chante « Alléluia, all I have is Christ ». Alléluia, Jesus is my life. Fait, tout ce que j'ai, c'est Christ. Alléluia. Tout ce que Jésus c'est ma vie. Alléluia. Fait que, maintenant, quand on n'a plus rien, quand tous nous ont abandonnés, il nous reste juste ce qui est le plus précieux et ce qui est le plus merveilleux. Puis on ne peut plus s'appuyer sur tout ce qu'on avait. Puis on peut juste s'appuyer sur Christ. Puis c'est ce qui est de merveilleux. Donc, lorsque vous êtes dans les souffrances, sans recours, vous êtes à la bonne place, avec Christ, votre secours. Il a souffert pour vous le plus grand abandon, la plus grande souffrance, la plus grande détresse, mais il vous donne la plus grande présence, le plus grand secours, la plus grande paix, puis le plus grand bonheur. Amen. Amen. On va prier, puis on va prendre un temps de prière. Ah, Seigneur, merci pour toutes ces souffrances-là que tu as été pour nous. Merci, Seigneur. Seigneur, tu méritais pas tout ça, puis tu l'as pris à notre place, puis tu es toujours là pour nous, puis tu seras toujours là pour nous, puis tu vas pouvoir toujours dire que tu comprends les souffrances qu'on vit. Pas pour dire comme, ouais, vous en avez souffert pire que ça, t'es donc bien pas bon, mais pour dire non, je te comprends, puis je suis avec toi dans la détresse, puis je vais te secourir, puis je vais t'aimer, puis je vais te délivrer, puis je veux que être ta joie, puis ta paix, puis ton bonheur. Dieu, merci pour Christ et toute son œuvre, puis toute la grande bonté dont on reçoit là-dedans. Seigneur, je te remercie, puis Seigneur, je te prie que tous ceux présents ici qui traversent des choses difficiles puissent s'accaparer. Tout ça, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si vous voulez prier, c'est le temps.
Merci Père éternel, parce que tu es un Dieu qui n'est pas resté au ciel, mais tu es venu parmi nous pour compatir nos faiblesses, comme ça nous dit dans l'Hébreu. Seigneur, on voit dans ce psaume-là, malgré tout le désespoir qu'il peut avoir d'un côté humain, bien, toi, tu es au courant, tu connais ce sentiment-là d'abandon, de faiblesse. Seigneur, c'est pour ça que tu peux compatir. Peu importe ce qu'on passe à travers, Seigneur, parce que tu le vois et tu l'as senti, tu l'as vécu. Et Seigneur, on te prie que tu nous aides à s'attacher, à s'accrocher à ça d'une manière ferme et aussi de voir que même dans les moments les plus difficiles, eh bien, il y a toujours cette partie où le psalmiste va à toi pour son besoin. Seigneur, qu'on puisse avoir toujours cette disposition-là d'aller à toi pour tous nos besoins. Mon Jésus.
Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour Christ, la plus grande des bénédictions. Amen. Amen.
Bon, là, je pense que normalement c'est le moment où qu'on chante. Là.
186.
Ouais, venez au Sauveur qui vous aime. Veux-tu. C'est toujours mieux avec toi. Puis,
ça dépend.
Ouais.
C'est enregistré.
Oh, hey, c'est...